bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 décembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Merkel c'est fini, Scholz c'est parti. L'Allemagne écrit une nouvelle page de son histoire avec l'élection du chancelier social-démocrate aujourd'hui, que la France va devoir apprendre à connaître. Son portrait dès le début de ce journal, Anaïs, après les autres titres.
Qui est le Saoudien arrêté hier à Roissy, mêlé à l'assassinat de Jamal Khashoggi comme le soupçonne la police? Ou bien y a-t-il erreur? C'est ce que disent les autorités saoudiennes. Au moins une piqûre contre le Covid pour plus de 52 millions de personnes en France. Dans ce journal, reportage avec des bénévoles auprès des SDF. Et puis l'événement en librairie ce matin, la sortie du tome 100 de One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50 avec vous Léa.
Et oui, et loin du bruit et de la fureur de cette campagne présidentielle, on se fait un petit plaisir coupable. La sortie des Tuches 4, cette comédie populaire, devenu un phénomène culturel. Jeff Tuche, aka Jean-Paul Rouve, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouve évidemment à 8h20 pour le grand entretien consacré aujourd'hui au nouveau rapport sur les inégalités dans le monde. Les deux économistes qui l'ont piloté, Gabriel Zucman, Lucas Chancel, seront nos invités. Intervenez dans ce débat au 01 45 24 7000.
France Inter. À 9h ce matin, l'Allemagne va tourner la page. Angela Merkel est dans la foulée. Rebattre les cartes de la relation franco-allemande et du leadership en Europe à un mois de la présidence française. C'est dire l'importance du vote des 736 députés du Bundestag qui commence dans 2 heures à élire à bulletin secret le nouveau chancelier. Olaf Scholz, 63 ans. Le centre-gauche de retour aux commandes de l'Allemagne pour les 4 prochaines années. Son portrait avec Bertrand Galichier.
Décrit par le magazine Der Spiegel comme l'incarnation de l'ennui en politique, affublé du surnom de Scholzomat en raison de son phrasé mécanique, le futur chancelier est aussi qualifié par des médias allemands de monsieur Teflon sur lequel glissent les affaires. Austère, parfois pince sans rire, Olaf Scholz s'est voulu plus chaleureux pendant la campagne électorale, plus jeune aussi en éliminant quelques kilos. Né au sein d'une famille modeste, Olaf Scholz milite à 17 ans aux jeunesses du SPD à Hambourg. En 1985, il fonde un cabinet d'avocat spécialisé en droit du travail et poursuit son ascension au cœur du parti dans le sillage de Gerhard Schröder. Député, secrétaire général du SPD, Olaf Scholz devient maire de Hambourg en 2011. Il développe des projets ambitieux mais coûteux pour la municipalité. En tant que ministre des Finances depuis 2018, il est en revanche partisan de la rigueur. Olaf Scholz est un politique dans l'âme, marié à Britta Ernst, actuelle ministre de l'éducation du Land de Brandebourg, où réside le couple à Potsdam, près de Berlin.
Olaf Scholz a présenté un gouvernement parfaitement paritaire avec des femmes au ministère clé des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur. Composition politique inédite aussi, une coalition entre sociaux-démocrates, libéraux et verts, ce qui donne un programme axé sur l'Europe, sur la rigueur budgétaire et la protection du climat. Benjamin Illy en particulier, une sortie du charbon avant la fin de la décennie.
Une sortie du charbon accélérée. Au lieu de 2038, ce sera donc 2030. Les Verts l'ont exigé, les sociaux-démocrates du SPD et libéraux du FDP ont signé. C'est gravé dans le contrat de coalition. En parallèle, l'objectif est de développer massivement les énergies renouvelables pour qu'elles représentent environ 80% de la production d'électricité à la fin de la décennie, alors que l'Allemagne doit fermer ses dernières centrales nucléaires en 2022. Mais Olaf Scholz promet également la construction de centrales à gaz modernes, d'où les sentiments mêlés d'Étienne Dingue, 21 ans, étudiant et militant écologiste, figure du mouvement Fridays for Future à Munich.
C'est, je crois, l'un de nos plus grands succès des dernières années. Nous avons réclamé pendant 2 ans et demi ou 3 ans une sortie du charbon en 2030 et nous allons veiller à sa mise en œuvre. Mais nous avons peur maintenant que les politiques brûlent du gaz au lieu du charbon et c'est aussi néfaste.
Quelle est la solution?
Vent et soleil. Le solaire et l'énergie éolienne, c'est suffisant.
L'énergie solaire, justement, le contrat de coalition prévoit que tous les toits appropriés seront utilisés pour en produire. Ce sera obligatoire pour les propriétés commerciales et ce sera la règle pour les nouveaux bâtiments privés.
De l'énergie renouvelable et pas du nucléaire. Dans le contrat de coalition allemand, également des mesures pour encourager l'immigration économique. Autant de sujets qui bousculent la France en pleine campagne électorale et qui prendra donc la présidence européenne en janvier. Le président de la République, lui, laboure le terrain loin des foules des métropoles. Emmanuel Macron dans l'Allier, aujourd'hui à Moulins, pour présider à distance le Conseil des ministres. ministre et puis à Vichy. Dans l'actualité politique aussi, en bref, l'appel d'Arnaud Montebourg dans les colonnes de Libération à l'unification des forces autour d'un candidat commun à gauche pour la présidentielle. Et Édouard Philippe qui présente aujourd'hui l'organigramme de son nouveau parti Horizon. C'est à suivre dans le journal de 7h30.
Il est 7h05, le suspect arrêté hier soir à Roissy, Anaïs, est-il la bonne personne ?
Eh bien, ça tourne à l'imbroglio après l'arrestation de ce Saoudien potentiellement impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au moment du passage des contrôles à l'aéroport parisien alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Riyad. La notice rouge d'Interpol s'est activée. Depuis, l'homme de 33 ans est en rétention, mais hier soir, l'ambassade d'Arabie Saoudite a fait savoir qu'il y avait erreur. Aurélien Colli.
Les autorités saoudiennes parlent d'une erreur d'identité. Elles indiquent que les coupables ont déjà été jugés et purgent leur peine en Arabie Saoudite. 8 hommes condamnés en 2020 après un procès qualifié de farce par la fiancée de Jamal Khashoggi qui a surtout servi à exonérer les vrais coupables. Arrêté à Roissy, Khalid Al-Otaibi serait l'un d'eux, recherché par la justice turque, mais aussi sur une liste de suspects sanctionnés par les États-Unis et identifiés par les enquêtes de l'ONU et de la presse. Il n'aurait pas participé au meurtre du journaliste dans le consulat d'Istanbul, mais il aurait ramené son corps démembré dans la résidence voisine du consul où un four spécial aurait pu permettre son incinération. Un membre de l'équipe donc, mais pas non plus le noyau dur, des hommes plus gradés, plus impliqués, mais jamais inquiétés, dont certains membres de la garde rapprochée du prince héritier saoudien, accusé par la CIA d'avoir validé le meurtre. Un prince mis au banc de la communauté internationale, mais sorti de l'isolement par la visite d'Emmanuel Macron ce week-end, ce qui a valu de vives critiques à la France et à son président avant cette arrestation à Paris qui tombe à pic si elle est confirmée. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Et si l'identité est confirmée, l'homme pourrait être présenté au parquet demain matin. Quant à l'homme suspecté d'avoir légèrement blessé Éric Zemmour lors de son meeting dimanche, il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction pour violence volontaire avec préméditation. À Sanary-sur-Mer, une deuxième victime retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré, une femme de 82 ans. Son fils, lui, est toujours disparu.
Le couvre-feu 7h07 prolongé de 2 semaines en Martinique.
Face à l'emballement de l'épidémie de coronavirus, au total en France, plus de 1660 malades sont entrés à l'hôpital ces dernières 24 heures et la vaccination avance sans relâche. Schéma complet pour plus de 51 millions de personnes. Mais il faut continuer à chercher ceux qui n'y ont pas accès. Lauriane Delanoë a suivi la maraude nocturne de l'Ordre de Malte. Public ciblé, les sans-abris. Première étape, un centre d'hébergement pour femmes à Rueil Malmaison, près de Paris.
Covid, deuxième dose.
Je suis à troisième dose.
5 femmes veulent être vaccinées ici. 3 n'ont pas la sécurité sociale.
Est-ce que vous avez les papiers des 2 premières vaccinations ?
Non, j'ai pas les autres papiers.
J'ai besoin des papiers où il y a le code.
Ce code, c'est comme leur identifiant de vaccination, indispensable donc pour le docteur Guy Lessieux.
Médecin à la retraite, je vais avoir 80 ans dans quelques mois.
La médecine des personnes de la rue, c'est très difficile. Ils perdent souvent les papiers, ils les oublient.
Oui, entrez.
Mais l'attestation.
L'attestation.
Dans les centres de vaccination, on le remet tout de suite, mais j'ai pas l'ordinateur, j'ai pas d'imprimante. Je l'envoie.
Merci d'être passé.
La salle suivante, s'il vous plaît.
Voici Samia qui s'accroche à son carnet de vaccination.
Je pique.
C'est Pfizer ?
Oui, madame.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé de plage horaire. C'est formidable.
Ils aident les personnes à avoir de la dignité.
Voilà, enfin, madame.
Les bénévoles sillonnent ensuite les rues jusque tard dans la nuit dans leur camion médicalisé. Ils cherchent des sans-abri à soigner, voire vacciner.
Si on ne vient pas à leur chevet, dans leur squat, ils ne feraient jamais la démarche. Il y en a beaucoup qui refusent. Ils ne voient pas la nécessité. Il y en a un, notre ami Patoche, il m'a dit non, moi je me vaccine à la bière. Tandis qu'un autre, je lui ai proposé plusieurs fois, et au bout de 4 fois, il m'a dit, allez doc, on le fait.
Guy Lessieux a ainsi fait 80 vaccinations en 3 mois.
Et puis à lire sur franceinter.fr un article sur qui peut se faire vacciner sans rendez-vous. Par ailleurs, toujours sous surveillance, le variant Omicron est loin d'avoir livré tous ses secrets, mais déjà des premières nouvelles rassurantes. S'il est à peu près sûr qu'il est plus contagieux que le variant Delta, il ne semble en revanche pas plus dangereux. C'est ce que dit cette nuit l'OMS. Le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie aura bien le dimanche. Le Conseil d'État a rejeté la demande de 146 électeurs en majorité des Kanaks. Pour eux, le contexte sanitaire empêchait le scrutin de se tenir. Normalement.
Il est 7h09, le ciel du Nord peut être tout aussi séduisant que les bords de la Méditerranée.
Et bien en tout cas, dans le grand jeu de taquin post-crise sanitaire et les déménagements des franciliens, les Hauts-de-France tirent leur épingle du jeu. La région dépasse son niveau d'emploi d'avant la crise. 30 000 emplois créés au premier semestre et ce dynamisme séduit Sébastien Sabiron.
50 minutes de Paris en TGV, 50 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle, 1h30 de la mer. Frédéric Le Turc, le maire d'Arras, sait faire l'article de sa ville, dont le quartier de la gare est quasiment devenu celui des Parisiens.
Dès qu'une maison est en vente, on note que les ventes se font généralement dans la journée. Ce sont des navetteurs qui vont travailler à Paris. Ce sont aussi parfois des gens qui décident de travailler en province ou qui de plus en plus télétravaillent.
À Bully-les-Mines, le groupe électroménager SEB construit une plateforme logistique de 100 000 mètres carrés, 500 emplois à la clé. Pour exporter vers l'Europe du Nord, le Pas-de-Calais est idéalement situé, mais ce n'est pas son seul atout. Franck Lichtenauer, directeur logistique du groupe SEB.
Nous avons été très très bien accueillis par la communauté de communes et par la région, qui nous ont permis de trouver un terrain parfaitement adapté à nos besoins. Et c'est vrai que nous avons eu un soutien important pour les permis de construire de la communauté de communes, qui nous a permis de l'obtenir dans des délais rapide.
De son côté, Lille attire de plus en plus de start-up avec des contraintes bien moindres qu'à Paris. Sévan Torossian, directeur études et recherches du groupe de conseil en immobilier Arthur Lloyd.
Déjà, Lille, vous êtes à 1 heure de Paris. Les meilleurs quartiers de bureaux de Paris, vous avez des loyers à 800 ou 900 euros du mètre carré. Quand vous arrivez à Lille, dans les meilleurs quartiers de Lille, vous êtes à 200 euros.
Symbole de ce dynamisme, Euralille est le troisième quartier d'affaires français derrière Paris et Lyon.
Sébastien Sabiron, en revanche, difficile reclassement pour les 350 salariés de la SAM près de Decazeville dans l'Aveyron. La fonderie va bien fermer, le parquet n'a pas fait appel. Les premières lettres de licenciement sont attendues dans les prochains jours. Allez, vous ne pouvez pas passer à côté si vous avez des fans de manga dans votre entourage. Sorti aujourd'hui en librairie en France du 100e tome de la série One Piece, 490 millions vendus dans le monde. Saga écrite depuis un quart de siècle par un mystérieux mangaka japonais, Eiichiro Oda. À Tokyo, Karine Ishimura.
One Piece, c'est l'histoire interminable de Luffy et de sa bande de pirates à la recherche d'un trésor. Cela fait 24 ans que l'aventure dure sans un tome au Japon. Au départ, en 1997, son créateur, Eiichiro Oda, lui voyait une destinée bien plus courte, comme il l'a confié lors d'une rare apparition visage masqué en 2018 à la télévision japonaise.
Je pensais que je pourrais finir cette histoire en 5 ans, mais comme ça n'a pas été le cas, je continue. Ce serait impoli de ne pas dessiner un épisode que j'ai imaginé et que je trouve intéressant.
Comme tous les mangakas soumis à un rythme de parution de 19 pages par semaine, Oda est sans cesse sous tension. Son moteur, c'est l'émotion, disait-il l'an passé.
Si je ne vais pas jusqu'à pleurer d'émotion en dessinant mes propres mangas, je ne peux pas toucher le lecteur.
Depuis des années, le mystérieux Oda, qui fêtera le 1er janvier ses 47 ans, répète que c'est bientôt la fin de One Piece. Il la connaît d'ailleurs, elle a été décidée il y a bien longtemps. Tokyo, Karine Ishimura, France Inter.
Eh bien, en attendant la fin, hein, on va prolonger le plaisir. Émission spéciale de 21h à minuit en direct sur Inter avec invité et auditeur. Retour de Frédéric Sigrist.
Merci Anaïs Feuguin. Le zoom dans 3 minutes sur les jeunes de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui à l'heure du choix pour ou contre l'indépendance.